Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Olivier, bienvenue sur ce podcast. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et en savoir un peu plus sur qui tu es, ton parcours et ton rôle peut-être chez Pôle emploi. Donc merci de t'accueillir dans ces beaux locaux à Paris. Porte des Lilas, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Voilà, on a une belle vue sur Paris aujourd'hui. Donc, ce que je te propose aujourd'hui comme trame, c'est qu'effectivement, tu me parles un peu de ton parcours chez Pôle emploi. Alors, moi, je suis allé voir ton LinkedIn un peu à l'avance. Je ne suis pas sûr qu'il y avait une expérience avant Pôle emploi, si je ne me trompe pas. Ou alors, elle n'est pas affichée sur LinkedIn.
Je suis un bébé ANPE puis Pôle emploi. Donc, je fête mes 30 ans cette année de service public de l'emploi. Donc, oui, effectivement, globalement, une expérience centrée sur le service public de l'emploi. Avant, j'étais en alternance sur un parc de loisirs bien connu de l'Ouest de la France qui s'appelle le Futuroscope, où j'étais en charge de commercialiser le parc à l'époque, ça remonte à plus de 30 ans dans sa naissance, auprès des tour opérateurs espagnols et portugais.
Ok, bah super, tu vois, j'apprends quelque chose déjà. Donc oui, tu vas nous parler un peu de ton rôle chez Pôle emploi, surtout sur, je pense, la partie innovation, ce que tu peux porter. Peut-être un focus sur pôle-emploi.io, un service au top du digital et de l'innovation. Peut-être nous expliquer ce que sont les API à disposition et puis peut-être aussi parler de l'Emploi Store. Et puis, on finira sur tes enjeux du moment. Moi, je suis curieux de savoir ce que tu peux nous dire sur France Travail, si tu as des choses à nous partager. Et puis, on finira par la fameuse question, le futur, c'est maintenant. Est-ce que ça te va, le programme ?
Super.
Bon, on peut démarrer. Olivier, tu peux te présenter en quelques mots. Je suis curieux de savoir ton parcours depuis l'école jusqu'à tes premières expériences professionnelles.
Très bien. Donc moi, je suis donc Olivier Paloisin, directeur de l'expérience utilisateur et du digital et puis de l'Open Innovation pour Pôle emploi. J'ai des études d'école de commerce, marketing, avec des options au niveau commerce international. Et vous allez me dire, mais comment on passe d'études commerciales au service public de l'emploi ? Ben, c'est le hasard à l'époque de l'engagement du service militaire où j'étais officier conseil, donc en charge de l'accompagnement à la fois des sortants du service militaire, mais également des professionnels de l'armée. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la NPE, et puis ça a été la vocation. Donc, concours passé, intégré, premier poste de conseiller en 93. Et puis ensuite, à l'issue de différents passages de concours, jusqu'à mon premier poste de directeur que j'ai eu donc en Bretagne, dans le Pays d'Auray, où j'étais en charge du territoire merveilleux alréen avec Auray, les territoires touristiques de Carnac, la Trinité, Presqu'île de Quiberon, Belle-Île, Watt et Dick, enfin l'ensemble de cet archipel. Et donc dans cette première fonction de directeur, j'ai eu à gérer et à innover pour l'emploi saisonnier avec des créations de maisons des saisonniers, agir avec nos partenaires pour la maison de l'emploi du territoire alréen. Donc première grosse expérience de directeur sur le territoire breton. Et puis par la suite, première fonction de directeur départemental en Ille-et-Vilaine, toujours en Bretagne.
À Rennes, du coup.
À Rennes, effectivement. Ouais. Et puis mes premières fonctions de cadre dirigeant, je les ai donc obtenues en Outre-mer, en Guadeloupe. Et puis ensuite en Pays de la Loire.
Donc, comment ça s'est fait la transition entre du coup Rennes et la Guadeloupe ? C'est des mobilités internes, des opportunités qui se créent comme ça ?
C'est à la fois en fait des mobilités internes, tout à fait. C'est à la fois des challenges qu'on vous confie, puisque je n'avais aucune expérience en Outre-mer. Mais j'avais la conviction que sur ces territoires, on pouvait innover encore plus qu'ailleurs. Et ce n'est pas faux, puisqu'en fait, la culture, l'ADN des ultramarins, du fait de leur éloignement, les amène souvent à essayer de tester des modèles qui sont appropriés à leur territoire. Donc ça a été effectivement une expérience à deux reprises, puisque j'y ai effectué des fonctions sur deux cycles de trois ans, à deux reprises, donc en Guadeloupe. Et donc voilà, une carrière de terrain qui aujourd'hui donc a pivoté sur des fonctions nationales que j'ai présentées à l'instant, qui sont orientées autour donc du digital, donc pouvoir améliorer en permanence nos services principaux que sont Pôle emploi.fr, nos applications, l'Emploi Store et des services spécialisés que je pourrais présenter juste après. L'ensemble quand même de ces services digitaux, c'est côté web, plus de 40 millions de visites par mois.
C'est énorme.
Et côté application, c'est 30 millions pour l'application Mon Espace et 10 millions pour l'application Mes Offres. Donc, comme on dit souvent, quand on a des évolutions de pourcentage, même aux chiffres individuels, les évolutions d'impact sont énormes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une démarche produit pour ces services digitaux, orientés utilisateurs, avec un certain nombre de métriques qui nous permettent en permanence d'agir pour pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs. Donc là, il y a une fonction amélioration continue des grands services digitaux et puis des fonctions donc, d'innovation permanente avec mes collègues d'autres directions et mes partenaires pour en permanence, à travers l'incubateur, développer de nouveaux services digitaux qui correspondent aux attentes du public d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en permanence, on a une dizaine d'équipes produits qui sont orientées sur des services nouveaux en test, puis ensuite en croissance et puis ensuite en intégration sur nos services.
Quand tu parles d'utilisateurs, on parle bien des demandeurs d'emploi ou ça peut être les conseillers Pôle emploi, ça peut être tout type de...
Moi, j'ai quatre clients, je dis souvent.
Ouais, c'est des clients.
L'utilisateur de mon emploi candidat. Attention, ouais. On travaille aussi pour les actifs. C'est l'occasion aussi de dire que tous nos services sont accessibles pour des personnes en poste hein, qui souhaitent soit rechercher des compléments ou un nouvel emploi. Nous travaillons également pour les recruteurs, chefs d'entreprise, deuxième grand client. Nous travaillons évidemment pour nos conseillers professionnels qui utilisent nos interfaces professionnelles. Et puis, on travaille aussi pour nos décideurs, pour les politiques, pour nos administrateurs à travers donc, des interfaces de pilotage qui éclairent les décisions, les orientations de l'établissement. Donc, nous servons l'ensemble de ces utilisateurs.
Super. Et du coup, à ce niveau-là, on a l'Emploi Store avec plusieurs outils. On a la plateforme Pôle emploi, on a l'application. Moi, je suis curieux de savoir, du coup, comment ça s'est lancé, ce côté un peu tech, innovant, digital chez Pôle emploi. Ça a été quoi la genèse du projet, même de se rapprocher des startups, de créer un incubateur, si je ne me trompe pas?
Tout à fait. Alors, c'est d'abord et avant tout la vision et l'impulsion d'un directeur général, Jean Basser, hein, qui a sa prise de fonction très rapidement vue dans le digital. Et dans ces interfaces, des leviers de développement à la fois de l'usage, mais aussi de la satisfaction des utilisateurs. Donc nous avons tout d'abord créé dans l'histoire, et c'est normal, l'interface web, Pôle emploi.fr. Ensuite, nous avons développé des applications à la naissance et à l'émergence du smartphone et de son usage. Et puis l'Emploi Store, qui a été initié par mes prédécesseurs, c'était une évidence que l'écosystème web, application, était un allié pour Pôle emploi plus qu'entre guillemets un concurrent. Autrement formulé, nous n'avions pas vocation à couvrir l'ensemble des champs du digital, voire à proposer aux demandeurs d'emploi ou aux recruteurs des alternatives à des services que nous pouvons proposer qui sont, de notre point de vue, complémentaires. Et dans ce contexte, a été effectivement initiée la création de l'Emploi Store il y a 6 ans, avec une croissance permanente et récemment, l'année dernière, une refonte pour remettre au goût du jour l'Emploi Store, permettre d'y intégrer une dimension non plus seulement bibliothèque, mais guide, conseil, accompagnement avec des parcours conseils, de nouveaux moteurs de recherche. Et cette belle histoire, elle est inspirante pour nos voisins européens puisque depuis sa création, récemment tout du moins, le service public de l'emploi grec, le service de l'emploi suédois, le service public de l'emploi espagnol, au Canada également, outre-Atlantique, se sont intéressés à notre modèle pour pouvoir le transposer et le développer à l'échelle de leur pays. Donc on avait, je pense, senti avant l'heure qu'on avait des alliances possibles dans un écosystème protégé qui est l'Emploi Store. Et on est assez fiers d'avoir senti le coup avant l'heure. Aujourd'hui, notre enjeu, parce que le monde évolue, comme je dis souvent, on pense sur un tapis roulant, c'est de construire l'Emploi Store de demain. L'Emploi Store de demain, il est encore plus performant en termes de personnalisation. Il est encore plus performant en termes, effectivement, de logique de marketplace. Autrement formulé, Moi, je reste convaincu que ce n'est pas, entre guillemets, l'abondance de sites ou de partenaires qui est un problème. C'est notre incapacité à guider efficacement l'usager vers le bon service.
Ouais, ce côté parcours, peut-être.
Voilà. Donc, ouais. Moi, je suis convaincu que, au contraire, plus on a de partenaires de qualité, mieux c'est. Après, à nous d'ordonnancer, de référencer, de taguer ces services pour qu'ils soient proposés au bon moment, à la bonne personne et dans la bonne, le bon enchaînement de services. Donc on a les enjeux, nous, de continuer à travailler au développement de services avec nos partenaires. Et à ce titre-là, donc, a été lancé, c'est la fin du cycle des sites majeurs de Pôle emploi, pôle-emploi.io, comme IoT, hein, qui, dans cette logique, a voulu s'ouvrir aux makers, aux créateurs de l'écosystème digital, à la fois en mettant à disposition tout un portefeuille d'API. On a démarré avec 2-3 API. Aujourd'hui, on en a plus de 80.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les API,
alors, API, que parce que Olivier, je prononce à la française.
Oui, API.
L'API, comme je dis souvent, c'est une porte qui permet effectivement d'ouvrir vers un autre système informatique, un échange de data, de services. Et donc, c'est ce que j'appelle les tuyaux qui permettent de se parler entre systèmes et qui s'appellent en permanence et donc qui sont synchronisés quasiment en temps réel. Et donc, c'est ce portefeuille de jeux de données, je vais donner 2 exemples qui sont concrets et parlants pour l'ensemble du public, en prenant d'ailleurs les services qui sont les plus appelés par nos API. Le premier, c'est les offres. Toutes les nuits, Pôle emploi partage avec ses partenaires les offres collectées dans la journée, permettant ainsi, dans une logique de transparence du marché du travail, nous, Pôle emploi, de collecter des offres que nous n'avons pas et inversement de nos partenaires. Ça, c'est le premier exemple. Donc, les offres s'échangent. Comment ça se passe? Ben, nous, l'offre reçue, on la compare à l'existant. S'il y a un pourcentage de similitude, on la rejette puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir des doublons. Le candidat, s'il a 3 fois la même offre, pour lui, pas intéressant. Donc, on a un système donc, de dédoublonnage. Et puis, nous avons aussi un système de traitement de l'égalité de l'offre, qui est notre ADN en tant que secteur public. Nous, on regarde le texte de l'offre. Si on y trouve des données ou éléments qui nous semblent effectivement non légaux ou pas en recevabilité de notre cahier des charges, là aussi, on rejette.
Cette modération, elle se fait comment? De manière humaine, avec un peu d'intelligence artificielle?
C'est une modération réalisée par l'intelligence artificielle.
D'accord.
C'est une approche qu'on appelle Lego chez nous, qui a été développée par nos équipes IA. Donc, cet exemple, voilà, les tuyaux échangent les données, elles sont raffinées. Et de ce raffinage, on en extrait des données qui sont exposées le lendemain aux utilisateurs. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, là, il est plutôt orienté simplification du parcours utilisateur. C'est dans le cadre, effectivement, du bouton Pôle emploi Connect, qui est un cousin, un frère jumeau de France Connect. Alors, Pôle emploi Connect, très concrètement, c'est la possibilité pour un demandeur d'emploi, lorsqu'il va le voir arriver sur un menu d'un site partenaire, ce bouton, de ne pas répéter tout ce qu'il a déjà dit à Pôle emploi, et donc, avec son consentement, de partager des données qu'on va lui indiquer, nom, prénom, etc. Et donc, c'est des gains de clics, de saisie ou de temps qui sont très importants et qui permettent à l'usager, effectivement, de faire une démarche rapidement. Donc, voilà, ces API ont été exposées via pôle-emploi.io. Nos partenaires les appellent, construisent, améliorent des sites web qui, dans de belles histoires, deviennent ensuite des sites exposés sur l'Emploi Store et sont exposés, référencés aux usagers. Donc, c'est ça la belle histoire et le fil de notre histoire digitale.
Super, merci pour ces petites 5 minutes pédagogie. C'est vrai que c'est des termes techniques. La connexion avec le Pôle emploi Connect, je crois que ça s'appelle le SSO, le Single Sign-On dans le jargon.
Tout à fait, je ne suis pas allé jusqu'à ce niveau-là.
Mais ouais. Et pour le petit clin d'œil, on l'a fait nous avec Grimp, hein, sur notre service référencé sur l'Emploi Store. Et ce qui est génial, c'est que depuis décembre, plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites pour le suivi, l'organisation de leur candidature. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide de pouvoir s'interconnecter soit en API, soit effectivement avec un SSO, comme on le dit. Tu parlais un peu des équipes IA. Je suis curieux de savoir comment, du coup, sont structurées les équipes chez Pôle emploi sur la partie innovation. Toi, dans tes équipes, tu peux nous parler un petit peu de comment sont structurées ces équipes, la répartition des différentes compétences Peut-être que tu as des squads, des teams, comment tu appelles ça, comment ça se passe?
Alors, sur le domaine innovation, en fait, nous avons donc développé un outil de radar, un outil effectivement de mapping qui nous permet à nous, équipe du digital, de l'expérience utilisateur, à nos collègues de la direction des services informatiques, à nos collègues de la direction innovation de pouvoir identifier et recenser donc les startups, les porteurs de projets, désormais aussi des scale-up, de grands établissements, et par tag et par démonstrateur ou POC, pouvoir référencer l'ensemble des technologies que nous avons déjà en maîtrise, celles que nous sommes en train de tester et celles pour lesquelles nous observons sur le marché actuel des évolutions majeures qui nous amènent à nous interroger sur leurs tests et leur intégration. Comme je dis au VivaTech, nous, on ne s'intéresse pas à l'innovation une fois par an au VivaTech, on s'y intéresse toute l'année et on est en permanence en observation des évolutions. Donc, ce sont des milliers d'utilisateurs internes qui sont nos observateurs, nos francs-tireurs permanents. Ils sont aussi bien au siège à la DSI que dans le réseau. Et on a un système très fluide de repérage et ensuite de mise en test des dispositifs. Alors, où on a encore à progresser, et on le sait très bien, c'est de passer du démonstrateur à la généralisation à l'échelle. C'est vraiment pour beaucoup d'établissements l'enjeu de demain, c'est tester à petite échelle ou petite dimension. C'est souvent simple, avoir des modèles scalables, avoir des modèles effectivement qui vont pouvoir passer à l'échelle et tenir le rang. C'est là l'enjeu de demain, puisqu'en fait, et c'est souvent dans mon analyse des innovations et de mes relations avec les partenaires, c'est de leur rappeler que, en tant qu'acteur central du marché de l'emploi français, quand on rentre dans la cour de Pôle emploi, demain France Travail, les volumes potentiels de fréquentation sont assez conséquents. Et donc, les solutions proposées doivent être capables de supporter l'échelle de ces consultations. Et puis, dans un sens et d'une démarche, entre guillemets, équitable et de généralisation à tous, on ne se voit pas développer des services qui seraient réservés à un petit segment parce qu'on ne sait pas l'escaler, les monter à l'échelle. Donc, on est très regardant sur la capacité d'offrir un service au niveau national. Et à ce titre-là, de nouveau, les services numériques là-dessus sont fantastiques puisqu'ils permettent de garantir ce service France entière. Donc sur la partie innovation, un outil de mapping, un outil d'analyse et de suivi de POC, POV, une gouvernance permanente qui nous permet, le cas échéant, de scaler ou de monter à l'échelle le service. Et puis cet équilibre que nous avons entre nos propres innovations internes, full Pôle emploi, et celles que nous sommes capables de monter avec des partenaires externes. Donc ça, c'est vraiment une curiosité dans le domaine open innovation, hein, innovation ouverte, où nous sommes vraiment en permanence avec Pôle emploi.io ouvert à des propositions externes.
Du coup, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de collaborer, de travailler avec Pôle emploi via ce service Pôle emploi.io, j'imagine.
Je considère qu'aujourd'hui, on a, par rapport à d'autres établissements publics, à travers donc notre site institutionnel, Pôle emploi.org, que j'ai oublié tout à l'heure dans ma présentation, hein, qui pose la stratégie d'établissement, Pôle emploi.io, qui permet de référencer ou de pousser une innovation technique, on a, je trouve aujourd'hui, un système de captation de l'idée et l'innovation qui est plutôt bien constitué. Après, beaucoup de partenaires doivent, avant même d'engager une démarche avec nous, être vigilant à notre ADN et à notre finalité. Nous sommes un service public, nous sommes effectivement sur la partie usager de mon emploi, garant de services gratuits. Nous sommes effectivement garant de services de qualité qui vont effectivement être, entre guillemets, dans le respect de données AIPD, RGPD, d'être dans une logique non mercantile, etc. Enfin, je pourrais faire toute la liste.
Donc, sensible.
Nous aussi, on pose un projet dans ce cadre-là. Le dialogue et la construction est souvent fluide et aisé. Bon, inversement, ce qui peut souvent nous faire perdre du temps, ce sont effectivement des projets qui ont vocation à une dimension plus financière et spéculative qui n'est pas notre ADN. Mais je vous rassure, grâce à tout ce système-là, on est très rapidement au contact du porteur de projet. Et avec la pédagogie et le tact, on lui explique souvent « Non, merci beaucoup, mais ce n'est pas pour nous. » Et on sait même des fois leur dire « Écoutez, ce type de projet, moi, si on était vous, je pense qu'il a vocation à pouvoir se développer de telle ou telle manière. » Mais voilà, on a un dialogue constructif et puis vraiment motivé pour aider l'écosystème numérique à se développer.
Super. On s'était croisé à la Fabrique. C'est un tiers-lieu, c'est un lieu dédié à l'innovation.
La Fabrique est devenue la grande fabrique, puisqu'elle a grandi en taille.
C'est vrai que le bâtiment est assez important.
Et le lieu où se rencontrent nos équipes et nos partenaires pour penser, concevoir les services de demain. Donc aujourd'hui, c'est un lieu dont on est fier qu'il soit très, très utilisé par des équipes produits, qui viennent s'y retrouver pour travailler des design sprints, pour travailler à du maquettage, pour travailler à la synchronisation des projets. Et puis, on est très fiers aussi d'y retrouver de plus en plus nos partenaires qui, dans des équipes mixtes ou même pour leur propre séminaire interne, viennent se mettre un peu au vert chez nous pour s'inspirer de nos pratiques. Donc, c'est un lieu vraiment de création et de création de services au service des usagers.
Quelle relation tu as, toi, particulièrement avec les startups, les porteurs de projets? Tu les croises sur des événements? Tu peux nous parler peut-être un peu de l'incubateur de Pôle emploi?
Alors, notre incubateur de Pôle emploi est aujourd'hui à date un incubateur 100% orienté sur les équipes internes. Donc, nous sommes sur des équipes dans un mode startup qui montent en puissance au fur et à mesure du développement du service. Mais nous le faisons dans un contexte, effectivement, d'équipe interne. Sur nos relations avec les startups externes, notre relation se fait principalement par ce portail pôle-emploi.io et une rubrique qui s'appelle « Identifiez-vous Novus », qui nous amène à travers donc des sollicitations à organiser des rencontres, alors souvent en distanciel, puisque la vision nous permet de nous déporter France entière et d'être au contact effectivement de ces équipes. Alors j'ai, Dieu merci, une super équipe autour de moi qui fait un travail souvent entre guillemets de pré-études et qui m'amène à rencontrer les projets les plus porteurs de valeur, ceux qui vont nous permettre demain potentiellement d'aller assez loin sur des nouveaux services. Donc il y a ce travail très complémentaire, ce travail d'équipe qui m'amène effectivement à rencontrer très régulièrement des porteurs de projets. Et puis dans certains cas, je me répète, pour clôturer la fiche dans le sens où l'idée ne correspond pas à notre éthique ou notre cadre, reste qu'elle a quand même des fondamentaux qui sont intéressants et qui peuvent l'amener à se développer avec d'autres partenaires. Donc voilà, contact régulier. Sur les forums, nous participons à différents grands événements français du digital. On a cité Vivatech, sur lequel nous sommes présents sur les 4 jours. Nous sommes également présents sur France API, nous sommes également présents sur des salons thématiques. Alors c'est vrai qu'en province, on profite via ce podcast, n'hésitez pas à nous inviter, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours effectivement, on a le réflexe de se dire, mais si on faisait venir les équipes digitales de Pôle emploi, on a été invité sur Tours, on a été invité à Marseille, on a été invité...
Peut-être à Lille aussi, au salon du travail, non?
Alors, j'aimerais sortir un joker parce que mes équipes se déplacent, Dieu merci, sans moi, mais on est pas mal présent sur certains forums, mais je pense qu'il y en a certains, on n'est pas encore invité.
D'accord.
Et via les réseaux de la French Tech, n'hésitez surtout pas, on le fera avec plaisir.
Super, bon, le message est passé. Donc si je comprends bien, en interne, on peut porter un projet et puis rejoindre l'incubateur de Pôle emploi. On peut arriver avec de l'innovation. L'innovation peut venir de partout, finalement.
On a des challenges internes, on a des boîtes à idées, des boîtes à idéation, des boîtes à innovation, donc on a des systèmes de captation permanents. Nous avons aussi, via le lancement de projets dans le cadre du plan stratégique, des créations d'équipes produits qui s'appuient là aussi sur des sachants, donc des experts. Donc oui, dans cette maison, ce qui est assez fantastique, c'est que nous avons pour nos collègues la capacité de porter un projet jusqu'à sa maturité, donc sa mise en ligne et intégration, et à travers ce parcours qui est ponctué de formation et d'accompagnement au digital, devenir un product manager à la cible et à l'épure des méthodes agiles et des méthodes aujourd'hui qui sont relativement beaucoup utilisées dans le secteur privé. Voilà.
J'ai une question un peu plus perso. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, Olivier, aujourd'hui ?
Moi, ce qui m'anime depuis le premier jour, c'est d'être utile et de pouvoir agir pour mes concitoyens dans le cadre du marché de l'emploi, du rapprochement offre-demande, de pouvoir souvent, à travers un nouveau service ou un service amélioré, faciliter son parcours, aboutir à un résultat, lui apporter un emploi, une formation, une création d'entreprise. Et puis, à travers les verbatim, un de nos sites, à travers aussi des rencontres, lors de forums ou d'événements, les témoignages d'utilisateurs, il n'y a pas plus puissant pour continuer à avancer. Quand quelqu'un vous dit merci, et c'est vrai que lorsque vous êtes sur le terrain, vous les avez plus souvent que quand vous êtes sur un siège, entre guillemets, un quartier général central. Mais n'empêche que nous, on s'inspire beaucoup des verbatim qu'on a régulièrement sur nos sites. C'est une captation aussi de motivation pour les équipes et ça nous anime au quotidien. Donc c'est vraiment le service public avec cette mission sur l'emploi qui nous semble en particulier aujourd'hui un excellent moteur de motivation.
Tu vois, pour la petite histoire, moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais négocié ma rupture conventionnelle. Mmh. Puis j'ai pu bénéficier du chômage pendant 2 ans. Aujourd'hui, on est 10 personnes. J'ai déjà en CDI. La société tourne. Et c'est vrai que j'ai un vrai sentiment de gratitude vis-à-vis de Pôle emploi. Alors que de base, tu sais, quand on est jeune, on voit Pôle emploi. Mais on voit peut-être un peu plus les défauts. Il y a ce côté pas assez séduisant, mais qu'il l'est de plus en plus aujourd'hui, je trouve, avec ce côté digital, innovation, et puis une proximité qui me semble évoluer dans le bon sens.
Oui, c'est important pour moi, puisque venant du réseau, je l'ai dit au démarrage de mon parcours, pour moi, on a deux jambes, hein, on a la puissance d'un réseau, une proximité, vraiment des collègues engagés sur le terrain qui sont auprès des entreprises ou des membres d'emploi éminemment présents chaque jour. Et puis, nous, au niveau national, c'est la deuxième jambe, à travers les interfaces utilisateurs, à travers des services, de pouvoir apporter cette alliance digitale, comme on dit chez nous, qui est très puissante. Et sur la création d'entreprise, oui, l'occasion est de dire que le premier business angel de France de la création d'entreprise, c'est Pôle emploi, avec un dispositif qui s'appelle l'ARS, qui est assez unique en Europe, et qui est à l'initiative et à l'origine de plein d'entreprises créées en France. Et c'est là aussi, pour nos voisins européens, un modèle inspirant. Là aussi, ils viennent souvent nous voir, justement sur l'Emploi Store, pour nous dire comment vous faites pour avoir autant de création d'entreprise, surtout dans la sortie de post-pandémie, où notre économie a particulièrement bien résisté. Ils s'intéressaient en fait à cette dynamique et cette alliance service public créateur entreprise.
Merci Olivier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes enjeux du moment là sur peut-être pour la rentrée là au mois de septembre? Je sais que tu vas partir bientôt en vacances peut-être.
Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes. Non, les enjeux comme beaucoup d'équipes. C'est de maintenir cette dynamique d'amélioration continue, de pouvoir avancer sur des nouveaux projets, de pouvoir aboutir sur d'autres qui sont très avancés, qui sont en mode d'intégration. On a en particulier trois grands enjeux sur le domaine digital. Le premier, nous avons un outil, un service qui s'appelle Mes événements emploi, qui permet de réunir et de centraliser dans un seul et même endroit les événements emploi, les job dating, les rencontres avec les professionnels. Comme nous l'avons fait pour les offres, nous le faisons pour les événements. Et là, on arrive à un virage très sensible, qui est celui de pouvoir, à travers donc, les API, de pouvoir en lecture, en écriture, donc en exposition ou en intégration, s'interopérer avec nos partenaires et ainsi faire, comme nous l'avons fait pour les offres, de ce pôle d'événements, le pôle central des événements en France, et pour nos utilisateurs et partenaires, avoir à terme une banque d'événements géolocalisée en proximité efficace pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un dernier virage très important pour nous. Nous avons des enjeux aussi autour de l'amélioration de l'exposition des aides, autour des sujets de la mobilité, autour des sujets effectivement de l'accès au permis, autour de l'enjeu, c'est souvent malheureusement encore un frein à la recherche d'emploi, alors qu'il y a des solutions qui sont des fois sous-utilisées, donc améliorer l'accès à cette information. Et puis sur le champ de l'adéquation offre-demande, nous avons effectivement sur le champ de l'amélioration de nos objets d'exposition d'offres, nos applications, des évolutions prévues à la rentrée pour là encore aller plus loin sur l'amélioration du parcours utilisateur, les candidatures, la connaissance du marché de l'emploi. Ça, c'est les enjeux de la rentrée. Et puis pour 2024, nous aurons donc les enjeux de la loi Plein Emploi qui est en cours de vote, qui est passé au Sénat, qui va aller vers l'Assemblée, et qui a vocation donc à faire converger notre pays vers le plein emploi. Aller vers le plein emploi, c'est réunir, additionner toutes nos forces, tous les acteurs qui agissent au quotidien vers l'emploi, qui sont aujourd'hui en proximité de publics peut-être plus éloignés, mais qui, avec notre concours et l'ensemble de nos ressources, vont accompagner ces usagers, ces actifs, vers la situation de salarié en fait. Et donc nos enjeux à travers France Travail côté digital, ce seront effectivement de développer des communs numériques, d'aboutir donc à des services digitaux sous cette marque ou la marque de nos partenaires qui seront effectivement sur des données partagées. Donc efficacité dans le dites-le nous une fois, puisque nous n'aurons plus à répéter nos informations, elles seront réunies au même endroit sans duplication, donc là une vraie gain pour l'utilisateur de mon emploi ou entreprise. Nous aurons aussi des enjeux de pouvoir additionner nos ressources, dans certains cas nos offres de services respectifs sont encore méconnues. Et on peut, entre partenaires, ne pas utiliser le bon service ou le bon outil au bon moment dans le parcours utilisateur. Donc là, il y a un enjeu d'alliance pour optimiser nos ressources et être encore plus efficace. Et puis, à travers cette opération aussi, de pouvoir se rapprocher de secteurs d'activité qui sont éminemment utiles et intéressants en complémentarité. Le domaine associatif, l'insertion par l'activité économique, tous ceux et celles qui sont en contact sur le terrain des usagers et qui, en alliance avec notre réseau, nos réseaux partenaires et nos services digitaux, peuvent aller encore plus loin. Mmh. Donc, de beaux enjeux.
Ouais.
Viser plein emploi, je crois qu'il n'y a pas mieux comme objectif. C'est assez effectivement grisant pour l'ensemble des acteurs concernés. Et avec la conviction que cet objectif, à travers l'ensemble des outils que nous avons déjà mis en place et de ceux que nous pouvons mettre en place, est atteignable. Je prends souvent deux exemples qui me sont chers. Le premier, c'est que dans le cadre d'un partenariat avec Betagouv, on avait monté il y a 2 ans avec 2 excellents intrapreneurs. Je vais les citer puisqu'en fait, ils sont brillantissimes, Nathalie Rer et Hervé Lallemand. On avait monté une start-up autour de l'immersion professionnelle en entreprise. On avait un problème en France, c'est souvent notre démarrage. On avait un irritant, il n'existait pas de base d'entreprise volontaire pour pouvoir accueillir, ouvrir leurs portes et recevoir un demandeur d'emploi ou un candidat pour découvrir leur métier ou l'entreprise.
Oui, comme sur un petit stage ou une petite période de découverte.
On n'avait pas cette base. Et puis, la procédure, elle était uniquement papier ou signature à l'ancienne. Et donc, elle avait à la fois une forme de complexité et de délai. Mmh. De ces deux problématiques, on en a fait effectivement des solutions. On a une base aujourd'hui France d'entreprises référencées qui peuvent effectivement le faire en ligne. Elles sont régulièrement approchées pour le faire. Mmh. Et puis, on a une démarche dématérialisée de demande d'immersion en ligne qui permet de faire la démarche aujourd'hui globalement dans les 48-72 heures. Donc, de ces deux objets, dans un contexte très tendu de marché de l'emploi, où l'approche dite traditionnelle montre ses limites, je suis convaincu que la généralisation progressive de ces immersions d'entreprise de 2, 3, 4, 5 jours permettront à beaucoup de candidats de trouver un emploi qu'ils n'auraient jamais trouvé sur la base du CV lettre de motivation ou de l'entretien classique. Et on constate aux États-Unis que ce mouvement aussi est en train de s'imposer. Et puis, une fois que l'immersion a eu lieu, attention, ne soyons pas non plus naïfs, dans certains cas, il y a un différentiel de compétences qu'on ne peut pas nier. Mais là aussi, il existe des dispositifs pour former dans l'entreprise le candidat qui porte des noms acronymes peu ou pas connus du grand public. On appelle chez nous aide à la formation, préalable à recrutement, préparatoire, opérationnel à emploi ou AFEST, qui sont des dispositifs de formation sur site. Et avec les deux dispositifs, je reste convaincu que dans beaucoup d'entreprises, considérant que si les savoir-être sont là, que le potentiel d'apprentissage est là, la prise de poste et l'accompagnement se fera par l'entreprise. Donc le plein emploi, avec ce type d'exemple d'outils, il est évident qu'on peut y arriver collectivement en y mettant toutes nos forces ensemble.
Ouais, je trouve ça super parce que c'est un bon moyen de travailler son projet professionnel, de découvrir des métiers.
Tout à fait.
Peut-être un bon moyen de se créer des opportunités au-delà d'envoyer uniquement un CV, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis peut-être de découvrir aussi un environnement qui ne nous plaît pas pour faire ses propres choix et avancer. C'est assez intéressant. Ça m'est arrivé de recevoir comme ça une personne sur une semaine chez nous et c'était super. On avait vraiment la sensation d'avoir eu de l'impact et de lui avoir filé un coup de pouce. Et puis elle nous avait bien aidé après. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant comme dispositif. D'un point de vue ressources humaines, comment on candidate chez toi? Comment tu staffes tes équipes? Comment tu recrutes? Est-ce que tu as des enjeux liés aux ressources humaines?
Alors on a des rotations permanentes, on a des départs, et parce qu'effectivement, certains de nos collègues vont grandir dans le secteur privé, et je l'espère, reviendront dans nos équipes ensuite. Et on a des départs pour des fins de contrat, des fins de mission, donc la vie normale d'une entreprise.
Tout à fait.
Nous diffusons nos offres sur notre site institutionnel recrutement qui s'appelle pôle-emploi.org, ORG, où il y a toutes les offres de Pôle emploi. Et puis, évidemment, nous utilisons également, à titre d'exemple, notre banque de profils, qui est donc une solution trop peu utilisée par les recruteurs, qui permet d'aller, non pas, comme on le voit dans l'offre, candidat vers le recruteur, mais le recruteur vers le candidat. Donc moi, je rentre dans la banque de profils. Nous avons défini la fiche de poste avec quelques compétences clés. On les met dans le moteur de recherche. Et on nous expose en quelques clics tous les CV disponibles sur la place. Donc c'est aujourd'hui un outil très efficace que nous utilisons, nous. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ben, ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, nous, on a des belles chaussures grâce effectivement à notre banque de profil.
Ouais. Non, c'est important, je pense, pour tout type d'entreprise, d'utiliser ses propres outils en interne.
À celui-ci, banque de profil, je le recommande aux entreprises. Ouais. Il est disponible soit via le portail entreprise, ouais, soit via une application que vous pouvez télécharger sur les stores, qui s'appelle Je recrute Pôle emploi. Ouais. Et vous la téléchargerez et vous aurez le moteur de recherche de la banque de profil.
On peut faire une petite parenthèse peut-être sur l'intelligence artificielle. Je vois qu'il nous reste un peu de temps. ChatGPT, le mouvement IA qu'on a depuis quelques mois là. Quel impact? Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Comment est-ce que vous observez, vous travaillez le sujet ou...
Nous avons eu un programme constitutif du lancement de la démarche IA au niveau de Pôle emploi qui est aujourd'hui, comme le numérique par le passé, intégré dans tous nos produits. L'IA, donc, c'est pour nous, dans le cadre d'une démarche éthique, un objet évidemment soit de simplification, soit de développement des services. C'est un objet aujourd'hui que nous embarquons, par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour le traitement des offres et de leur légalité. Nous l'utilisons également sur du caractère prédictif, avec des widgets pour donner le taux ou la prédiction de pourvoi d'une offre à un recruteur. Nous l'utilisons dans le domaine du traitement de documents. Bref, c'est pour moi, à l'instar de la machine à vapeur, à l'instar du moteur thermique, à l'instar de toutes les révolutions industrielles que nous avons connues par le passé, un incontournable.
Ouais.
Donc c'est une évidence dans laquelle, par contre, contrairement aux grandes révolutions par le passé, la mondialisation, le développement sans frontières est encore plus puissant que par le passé, puisqu'aujourd'hui, où se situe le serveur, comment s'échangent les données, comment sont-elles effectivement utilisées. Bref, tout cela nous amène à investir sur des solutions souveraines, en alliance avec d'autres acteurs publics. La DINUM porte des ambitions à ce niveau-là, à développer des modèles souverains, tout en s'intéressant à des technologies de nos partenaires privés. Donc c'est un travail à la fois orienté utilisateur en permanence, la technologie au service de l'utilisateur, et avec un souci d'être à la pointe des dernières technologies en place. Donc nous sommes aujourd'hui engagés sur des tests sur ces derniers domaines technologiques qu'on appelle les LLM. En français, tout ce qui va tourner autour du traitement du langage usuel, de son interprétation, de sa compréhension et de son retraitement. Tout ce qui aujourd'hui se développe autour du dialogue utilisateur seront évidemment des développements que Pôle emploi, demain France Travail, opérateurs devront effectivement intégrer, mais au service de l'usager. Et personnellement, je pense qu'il y a des technologies qui facilitent au moins les premières étapes des contacts, celles qui sont sans valeur ajoutée, hein. Qui suis-je, quel est l'objet de mon problème ou dans les grandes lignes de ma demande, pour aboutir à un intervenant conseiller qui lui va focaliser son écoute et son traitement sur la solution. Donc voilà, non, l'IA était évidemment quelque chose que nous investissons et pour lequel effectivement nous avons des équipes engagées.
Merci pour ce partage hyper intéressant. Nous on s'est amusé à jouer un peu avec le côté rédactionnel de ChatGPT pour créer la description d'une offre basée sur des mots-clés. Et comme vous l'avez compris, je me suis fait avoir par le matériel. Ma dernière question à Olivier portait sur le titre du podcast, Le futur c'est maintenant, et ce que ça lui inspirait. Et Olivier nous a gentiment partagé du coup quelques recommandations. Et effectivement, ça lui a évoqué beaucoup de choses positives sur le fait de passer à l'action, d'entreprendre, de prendre sa carrière en main, de candidater aux bonnes offres avec les outils Pôle emploi par exemple. Voilà, donc il nous recommande aussi évidemment de télécharger l'application Mon Espace Pôle emploi sur son smartphone, qui est plutôt très bien conçue et très bien notée sur les différents stores, que ce soit l'Apple Store ou le Play Store. Également l'application Mes offres pour pouvoir candidater facilement directement avec son téléphone. Et puis on a également une application proposée par Pôle emploi qui s'appelle Ma Formation, qui est aussi très bien ficelée pour trouver une formation idéale pour se reconvertir par exemple.
Donc il nous a souhaité une longue vie pour ce podcast et beaucoup de réussite avec Grim. Donc je te remercie Olivier, j'ai passé un super moment à tes côtés et évidemment je suis parti acheter de nouveaux câbles parce que je pense que d'avoir un micro, un câble, deux adaptateurs pour connecter au Mac, c'est peut-être pas l'idéal. Donc j'ai acheté un câble USB-C si vous voulez tout savoir pour les prochains épisodes et éviter de perdre de précieuses minutes d'enregistrement. À très vite pour la suite. Merci à tous, au revoir. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt !